Bonjour Mélène, bonjour Charlotte et bonjour Alexandre.
Bonjour.
Là on est à l'ITES, on est dans une salle de réunion, on est bien, on est avec plein de gens. Bonjour tout le monde. Bonjour. Plus fort, on vous a pas entendu.
Bonjour.
Voilà, il y a plein de monde, c'est chouette. On va revenir un petit peu sur votre voyage au Maroc. On va parler aussi un petit peu d'éducation spécialisée parce que c'est un petit peu ce qu'on fait à l'ITES. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette filière ?
Alors moi, du coup, je suis en formation d'éducatrice de jeunes enfants. Donc, c'est une formation différente de celle d'éducatrice spécialisée. Ma motivation première, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la petite enfance. Et puis, sur l'année de terminale, il faut faire des choix, il faut trouver son orientation. Et donc, on fait des recherches. Et puis, j'ai été amenée à tomber sur le site de l'ITES. Et de là, j'ai fait mes petites recherches sur le métier d'éducatrice de jeunes enfants ou d'éducateur de jeunes enfants. Et donc, je m'y suis intéressée. Et puis, j'ai effectué une préparation au concours à l'ITES. Et puis, j'ai découvert différents domaines dans lesquels on peut travailler, que ce soit les milieux ordinaires, établissements d'accueil du jeune enfant, les crèches, haltes garderies, etc. Et puis, les domaines un peu plus spécifiques, que ce soit celui de la protection de l'enfance, du handicap.
Et pour toi, Alexandre ?
Moi, c'est suite à un parcours de vie un peu bancal. J'ai eu une adolescence compliquée, on va dire. Et l'âge où on nous demande un petit peu ce qu'on doit faire dans nos vies, je ne savais pas trop et j'ai découvert un peu par hasard le social. Et arrivé en terminale, j'ai commencé à découvrir l'ITES un petit peu. On m'a dit que j'étais trop jeune, donc je suis allé un petit peu en fac d'histoire. J'avais professeur d'histoire en tête. Et après plusieurs stages, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas vraiment l'histoire que j'aimais, c'était plutôt le contact avec les jeunes de base. Donc je me suis réorienté vers l'ITES il y a 2-3 ans maintenant.
D'accord. Et Mélène ?
Moi, du coup, j'étais enseignante avant, enseignante en SECPA, donc enseignement spécialisé. Et c'est vrai que ça me plaisait vraiment beaucoup. Mais il manquait ce petit côté. Je voyais qu'il y avait des jeunes qui avaient beaucoup de problématiques sociales. Et voilà, moi j'avais accès à beaucoup de choses, mais je pouvais pas agir sur leur quotidien en fait, puisque moi j'étais simplement à l'école et c'était quelque chose qui me manquait. Donc j'avais envie de faire dans l'éducation spécialisée. Et voilà, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué l'entrée ici. Pareil que Charlotte, j'ai fait une prépa pour réussir à entrer. Et finalement, je suis là.
Alors, c'est quoi les principales missions quand on est éducateur spécialisé ou dans la petite enfance ?
Je dirais accompagner, créer une relation. C'est vrai que pour accompagner les personnes, il faut vraiment prendre le temps de les rencontrer aussi. Et puis après, ça peut être l'éducation spécialisée, éducateur spécialisé, c'est très varié. Ça peut être sur la protection de l'enfance, l'insertion, le handicap. Donc, ça dépend vraiment de qui on accompagne. Mais on est dans l'accompagnement dans le quotidien, dans des démarches administratives, parfois sur la réinsertion quand c'est des personnes qui ont un parcours de vie un peu cabossé.
Vous avez des stages, des trucs comme ça, ou c'est purement théorique ?
Alors moi je suis en apprentissage, je suis en troisième année. Donc ça fait 3 ans que je suis dans la même structure. J'ai eu l'opportunité quand même de faire un stage extérieur pendant 2 mois. Et donc je suis dans une structure de prévention où on accueille des familles sur différents temps avec leurs enfants de 0 à 6 ans ou sur d'autres temps de tous les âges. Et donc les familles viennent pour échanger, partager, rencontrer et puis des fois chercher des réponses du moins à leurs questions. Sur l'éducation, sur leur vie personnelle, et donc l'idée de cette structure là c'est d'accompagner les familles à trouver aussi leur réponse seule. Pour le coup, c'est particulier parce que c'est une structure où on n'a pas la casquette d'éducatrice de jeunes enfants ou d'éducateur spécialisé, mais la posture d'accueillante. Donc c'est comme ça qu'on se présente. Et puis l'idée, c'est pas d'apporter de la théorie aux familles, mais vraiment de les accompagner en fonction de ce qu'elles nous rapportent.
Ouais, puis ça, on en parlera probablement un petit peu tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on est vraiment blindé face au stress et aux émotions quand on fait de l'éducation spécialisée, quand on a que de la petite enfance ou des gens qui ont été cabossés? Comment est-ce que ça se gère tout ça? Est-ce qu'on apprend à le gérer pendant la formation?
Ah, c'est sûr que la formation va nous donner quelques billes, entre guillemets, pour faire face à plusieurs situations, plusieurs types de situations. Après, on a plein de choses, plein de cours, on va dire, qui nous accompagnent. Enfin, je pense à l'APP, par exemple, l'analyse de la pratique professionnelle, où on est réunis entre groupes d'étudiants pour discuter un peu de différentes situations, de comment on a agi, comment on n'a pas agi, pourquoi on a fait ça, etc. Donc ça nous permet d'avoir un regard, bienveillant, on va dire, de nos collègues directement de formation et de nos formateurs, formatrices. Et aussi, on est entouré dans nos lieux de stage par une équipe qui est justement là pour nous envoyer, entre guillemets, vers le diplôme, pour écouter ce qu'on a à dire, pour nous former aussi. Donc après, est-ce qu'on est blindé, je ne sais pas, mais on a quelques billes justement pour faire face à tout ça.
Vous avez une anecdote à nous raconter, un moment difficile dans votre formation, un truc, une rencontre avec une personne qui a été un peu poignante? Et puis vous avez eu une réaction, enfin vous avez été choqué d'un truc comme ça, qu'est-ce que...
Ouais, totalement, ouais, je vais rester assez simple, mais à mon tout premier stage, donc, qui était au CEDAS de Quimper.
C'est quoi ça ?
Au Centre départemental d'action sociale. Donc j'étais en unité éducative avec des éducateurs de prévention. Il y avait un psychologue qui est toujours là d'ailleurs dans cette structure, dans ce lieu. Que je voulais rencontrer, parce que j'avais comme idée, comme on dit beaucoup, de rencontrer un petit peu toute l'équipe et d'interviewer l'équipe, entre guillemets, pour savoir leur mission, etc. Finalement, en fait, ce psychologue m'a totalement accueilli, et cet entretien s'est transformé en 3-4 entretiens tout au long de mon stage, et c'était un petit peu un suivi de stage que j'ai eu. Et il m'a dit une phrase aussi que je la dis assez régulièrement quand je raconte une anecdote, justement. Ce qui le motive dans son métier, il m'a dit que tous les matins il se disait qu'est-ce que je fous là. Et cette phrase, en fait, je l'écris assez régulièrement parce que je trouve que c'est assez parlant. Il me l'a dit, c'est un psychologue, donc il avait son petit côté sérieux, mais il m'a dit ça et ça m'a totalement sorti de l'entretien. Et c'était une période aussi qui était assez compliquée pour moi, parce que c'était le premier stage, c'était plein de choses, je voyais plein de situations qui pouvaient me questionner, etc. Cette phrase qui me résonne en tête.
Ouais, y a des gens ici qui sont capables de vous suivre justement lors de vos stages. Je pense à Bleuen qui est psychologue aussi. Est-ce que vous avez des gens qui peuvent vous aider, vous, si vous êtes trop affecté lors d'une, on peut dire, intervention, d'une rencontre?
Oui, forcément, les formatrices, c'est un peu des personnes ressources pour nous tout au long de la formation. Après, on n'est pas à l'école tout au long de l'année. Enfin, quand on est en stage, c'est souvent surtout sur les dernières années de formation. On est en stage sur une majorité, en fait, de l'année. Donc après, on peut avoir du lien quand même, que ce soit des échanges par mail, etc. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir de la ressource aussi sur les terrains de stage et les personnes avec qui on travaille. En apprentissage, par exemple, comme je suis, j'ai une maître d'apprentissage avec qui, donc c'est un peu ma référente, du coup, avec qui je peux échanger après des temps difficiles, comme vous évoquiez. Moi, je pense notamment là où j'effectue mon apprentissage, on propose des temps d'écoute aux familles. Donc, c'est des temps qui sont individuels, et puis les familles viennent apporter une thématique particulière qui leur pose question, ou pour laquelle ils ont besoin d'échanger, d'être écoutés. Et c'est vrai que c'est des temps qui peuvent être parfois compliqués. Et des fois, selon ce que rapportent les familles, ça peut faire écho à certaines choses dans notre parcours, dans notre vécu, enfin voilà. Euh, donc après on a des temps quand même, que ce soit formel ou informel, donc l'analyse de pratique dont parlait Alexandre tout à l'heure, que ce soit sur les temps de formation à l'ITS, mais aussi sur les temps en stage, en équipe donc. Et puis des temps plutôt informels où on a besoin de ces échanges, donc on prend le temps pour les évoquer, pour discuter, et puis voilà.
Donc vous avez fait un voyage au Maroc, alors si je ne me trompe pas, c'est au mois de mars. Non, c'est pas au mois de mars, c'est
février.
C'est au mois de... J'étais pas loin.
Pas loin, ouais.
J'étais pas loin. On va parler un peu de... On a parlé un petit peu des expériences déjà dans la première émission, la rencontre avec, avec les assos là-bas. Je crois que vous aviez même pu rencontrer quelques personnes qui étaient en situation de rue. Il y avait quelque chose qu'on n'avait pas évoqué, c'était la place de la mère célibataire au Maroc. C'est une place qui est un petit peu particulière dans ce pays. Parce qu'il y a des contraintes, juridiques, c'est un peu particulier, il y a surtout une grosse contrainte culturelle. On va parler de ça et on parlera aussi un petit peu de votre visite à l'orphelinat, parce que les deux sont très 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 liés. Et puis quand on parle de votre expérience, vous allez pouvoir nous raconter un petit peu tout ça. Donc pour expliquer un petit peu aux gens, c'est quoi la place de la mère célibataire au Maroc ?
Alors, quand on parle des mères célibataires, comme vous l'évoquez, l'idée d'avoir un enfant hors mariage qui revient. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui rentre dans les coutumes, dans les manières de penser dans la société marocaine. Avoir cet enfant hors mariage, dans la place de la religion dans la société marocaine est quand même importante, et elle amène donc à penser que l'enfant doit naître d'une union où il y a un mariage, quoi.
Donc quelque chose d'officiel.
Voilà, c'est ça. Des enfants qui peuvent naître hors mariage, que ce soit dans différentes situations, certaines mères se retrouvent à devoir être accompagnées par des associations
des associations qui prennent en charge l'enfant, en fait, parce que finalement en tout cas ce qu'on a pu en percevoir, c'est que la mère qui est célibataire et qui du coup a un enfant n'est pas autant capable qu'un homme, par exemple, qui avait un enfant. Enfin, c'est vrai que ça, c'est plutôt sur la place de la femme. Finalement, il faut que dans le foyer, il y a cette question d'un couple marié avec un enfant. Et du coup, l'enfant est automatiquement placé. Ou alors, il y a aussi un accompagnement social qui peut être fait. Mais voilà, il y a toujours quelqu'un dans la boucle avec la maman.
Ouais. Et ce qu'il faut surtout préciser, c'est que il y a, d'un point de vue législation, il y a un article, je crois, dans le code pénal marocain, l'article 390, sur la légitimité, de l'enfant. Est-ce que vous connaissez cet article ou pas ? Ça vous parle ? C'est qu'en fait, vous êtes obligé d'avoir une union, d'être marié. Sinon, il y a une amende. En cas de naissance hors mariage, il peut y avoir aussi des peines de prison. Au Maroc, c'est 50 000 naissances hors mariage enregistrées chaque année. Par crainte des autorités, mais aussi par peur des représailles de leur propre famille, beaucoup de jeunes mères finissent par se débarrasser de leurs enfants. C'est vrai ça ?
Oui.
C'est ce que j'ai pu collecter comme information. Et selon les associations, 24 nourrissons sont abandonnés chaque jour au Maroc. 300 cadavres de bébés sont retrouvés tous les ans dans les poubelles juste à Casablanca. Donc vous n'avez pas pu approcher des mères célibataires.
Si, en fait, on a été dans un lieu où justement les enfants et les mères célibataires étaient accueillis, mais c'est vrai que comme disait justement Justine, c'est assez tabou, et finalement parler de ce sujet, c'était pas forcément quelque chose de possible. Après, on a pu avoir des échanges dans d'autres lieux où il n'y avait pas forcément du coup directement les femmes concernées. Elles étaient accueillies sur ces endroits où alors les enfants étaient accueillis. Et on a pu avoir des échanges, mais c'est vrai que directement la parole des femmes concernées, en tout cas, Finalement, pour ma part, non.
On a plus constaté finalement, de par nos visites dans différentes associations, et puis des échanges plutôt avec les professionnels que les familles concernées. Je pense aussi qu'il y a pas mal de tabous dans cette société marocaine. Une fois de plus, du fait de la place que prend la religion, et puis parce que le sujet de la naissance d'un enfant hors mariage n'est pas accepté dans cette société-là, et que donc
comme en plus, tu l'as relevé, c'est un interdit, ce qui fait que ça rajoute aussi du poids et de la culpabilité puisque c'est quelque chose d'illégal.
On parlait tout à l'heure un peu avec Alexandre des expériences un petit peu dures à supporter comme ça. Comment on fait quand on est face à ce genre de situation pour justement débloquer les tabous pour pouvoir pour que la personne qu'on a en face de soi puisse parler et puisse se libérer de tout ce poids, surtout un poids aussi raide que celui-là, quoi.
Bah, je pense que ce que certains professionnels, éducateurs qu'on a pu rencontrer ont mis en avant plutôt leur bienveillance et leur ouverture d'esprit sur cette thématique-là, au-delà de tous ces préjugés et ce qui renferme un peu certains sujets dans cette société-là. Donc, vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit, de bienveillance et puis adopter cette posture d'écoute qui pousse la personne à se confier, à se livrer.
Et puis il y a aussi, je pense, le temps. Enfin, c'est vrai que nous, on a visité beaucoup d'associations, mais à chaque fois sur des demi-journées, principalement. Après, il y a l'association Routois où on a été beaucoup plus. Avec les jeunes et les bénévoles. Mais c'est vrai que le temps, ça permet aussi de créer un lien de confiance, un environnement assez sécure pour pouvoir se confier. Et je pense que ça aurait été un peu inconvenu de venir poser cette question directement à des femmes qui déjà ont eu un parcours un peu compliqué et qui, je pense, avaient un peu... un peu de culpabilité. Je suis pas à leur place, je sais pas, mais je pense que c'est ce que la société a pu leur faire ressentir. Donc venir parler de ça à des inconnus, c'est pas quelque chose de forcément
simple. Ouais. Ouais, déjà des assos, j'imagine que c'était pas très évident. Est-ce que vous savez un petit peu quel genre de choix on peut avoir quand on est au Maroc, quand on a un enfant illégitime? Donc j'imagine qu'il y a l'orphelinat, puisqu'on va en parler. Qu'est-ce qu'elles ont d'autre comme solution? Est-ce qu'il y a aussi des solutions qui sont légales?
Oui, justement, alors j'ai plus le nom en tête, mais c'était un endroit où voilà, il y avait et les femmes et les enfants. Et ce qui était assez intéressant, c'est que c'était les professionnels travaillaient, donc c'était légal, et travaillaient justement pour réinsérer les femmes et aussi faire du lien avec les pères, essayer de faire en sorte que les pères reviennent dans la boucle, justement, pour que qu'ils reconnaissent l'enfant, en fait, finalement.
Alors les pères, puis j'imagine les familles complètes. Oui. C'est quand même une société qui est extrêmement patriarcale, donc la famille, elle a une place hyper importante. Et quand on annonce être enceinte illégitimement, j'imagine qu'il doit y avoir tout un tas de désordres familiaux, de violences même qui doivent se déclencher à ce moment-là.
Oui, effectivement. Après, c'est des pères qui peuvent fuir déjà et puis contester un peu la parole de la mère en mettant en avant que c'est du mensonge ou voilà. Et puis comme vous l'évoquiez dans les chiffres assez frappants que vous donniez avant d'évoquer cette thématique-là, il y a différentes manières effectivement de réagir face à des situations aussi compliquées, délicates. Les mères peuvent être amenées à abandonner l'enfant.
Dans des structures de type hôpitaux, orphelinat, j'imagine.
Par exemple. Et donc oui, un orphelinat, on en a visité un, notamment Agadir. Et puis, c'était une expérience assez frappante pour nous tous, je pense.
Pourquoi ?
En termes d'émotion, déjà, à l'entrée dans l'établissement, en fait, je pense qu'on a tous été assez submergés par le poids. Enfin, c'était vraiment une atmosphère pesante, en fait.
C'était un endroit qui était assez austère. Qu'est-ce qui vous a choqué ? Qu'est-ce qui vous a ému au moment où vous êtes rentré dans l'enceinte du bâtiment ?
C'est difficile à expliquer, je pense, parce que déjà, il y a une partie de subjectivité par rapport à chacun. Après, je pense pas que ce soit en termes de locaux directement, même si c'est vrai que, oui, si quand même, l'aménagement des espaces n'était évidemment pas le même que ce dont on a l'habitude de voir, nous, dans des structures qu'on côtoie sur nos terrains de stage, par exemple. En termes de jouer, en termes de... Par exemple, je me souviens d'une des pièces où, en fait, les enfants étaient tous rassemblés dans un parc, donc un parc délimité par des barrières, en fait. Alors nous, déjà, on a nos bagages de théorie et nos pensées sur des matériaux comme ça, comme les parcs. Nous, par exemple, en France, on prend un peu l'idée de motricité libre, etc. Bon, déjà, il y a ça. Mais finalement, c'est pas ce qui nous vient à l'esprit en premier. C'est plutôt de voir ces enfants-là qui sont sans jouer, sans support éducatif, et plutôt face à un écran qui est en hauteur dans un des coins de la pièce. Et donc, tous les enfants rivés sur l'écran, sans aucune émotion qui les traverse, sans aucun geste, sans bouger, quoi. Et puis, quand nous, on rentre dans cette pièce-là, certains nous voient, d'autres non. Certains viennent vers nous et puis on sent qu'ils sont vraiment dans la demande de contact et de lien avec l'adulte, des liens qui n'ont potentiellement pas du coup dans cette orphelinat-là.
Ouais, ça c'est ce qu'expliquait Bleuhen lors de la dernière émission, ouais.
Voilà, et donc de là, évidemment nous, on est touchés, on est frappés par ce qu'on voit. Après, ça c'était l'exemple pour une des pièces, mais on en a visité plusieurs, et puis à chaque fois.
À chaque fois c'est dur.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Et donc, Bleuhen, vous êtes formatrice ici. Qu'est-ce qui a changé chez eux après, entre l'avant, il y a eu un avant, puis il y a eu un après-voyage?
De ce que j'ai vu évoluer, c'est la capacité à parler de leurs émotions. Il y a eu un avant, un après, plus une timidité peut-être au début à parler d'eux-mêmes. Et là, j'ai l'impression qu'ils s'autorisent davantage à le faire. Et il y a eu une grosse évolution sur les 3 ans de formation, ça c'est sûr, c'est une formation qui bouleverse énormément. Mais ce voyage-là est venu marquer un tournant, c'est en deuxième année. Et puis ça les a... Voilà, ça leur fait participer à des expériences autres, comme par exemple être à la radio aujourd'hui. Ils ont aussi tous animé ensemble une conférence en amphithéâtre. Et je me dis qu'ils ont grandi avec cette expérience. Et je leur souhaite, moi, de découvrir autre chose au Népal, en Inde, au Maroc, et puis dans d'autres lieux.
C'était un peu voulu, le Maroc. C'était un peu voulu d'essayer de les choquer, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais leur apporter une autre réalité du travail social.
Il y avait une volonté de les décentrer de leur représentation, ça c'est sûr. De les choquer, non, parce que l'idée c'est pas de venir les heurter dans leur sensibilité, et puis on en a tous des sensibilités différentes aussi par rapport à nos parcours. Mais c'était une volonté aussi d'aller à la rencontre de l'altérité, de prendre conscience de sa propre altérité aussi, à nous, quand on va rencontrer l'autre dans un pays étranger, mais on parle de pays étranger, mais l'autre est partout autour de nous. Donc c'est de pouvoir se décentrer de ses représentations, même ici en France, je pense que c'est hyper important de ne pas être dans le jugement, dans la société dans laquelle on est et avec tout ce qu'on entend, de faire attention justement, à ne pas imposer ses croyances aux autres.
Chaque fois, c'est dur.
Voilà, c'est ça.
Ouais. En fait, vous partiez sans jugement. Le but, c'était pas ça. Hein. C'était pas de faire de comparatif. Mais finalement, on est un peu obligé quand même. On est obligé de comparer par rapport à ce qu'on a. Et puis aussi de faire une évaluation. Comment est-ce que vous avez justement perçu le système éducatif marocain, le système associatif, par rapport à celui qu'on a, nous, en France ?
Bah, y a un fossé quand même entre nos deux sociétés. Déjà en termes de formation, de professionnalisation, on a pu échanger avec des étudiants qui sont en formation de sociologie.
Ouais, c'est ça.
Mais qui, donc nous, formation de sociologie, on voit plus un apport théorique du coup. Enfin, c'était pas une formation professionnalisante comme pour nous dans nos formations d'éducateurs, d'assistante sociale. Enfin, voilà. Donc voilà, déjà en termes de formation, c'est totalement différent. Après, il y a aussi une question de moyens, une question de Les structures sont pas pensées de la même façon, sont pas utilisées non plus de la même façon.
La façon de faire, tout simplement, quoi, qui est complètement différente. Si, ouais. Sinon, pas de jouets, pas de choses comme ça, pas moyen de faire un peu de motricité. J'imagine qu'ils utilisent des méthodes auxquelles vous n'auriez peut-être même pas pensé. Ou je ne sais pas. Comment ça s'est passé le contact avec les professionnels là-bas ?
Alors, on a rencontré des professionnels qui étaient vachement engagés dans leur travail et puis dans l'accompagnement des enfants. Ils y consacraient presque leur vie. Que ce soit personnel aussi, c'était impacté forcément, qui avait en tête certaines valeurs, certaines qu'on prône aussi nous ici, mais la société suit pas en fait forcément leurs pensées à eux, donc on voit quand même que c'est en cours d'évolution et qu'il y a une marge d'évolution assez conséquente, mais que certaines personnes, du fait de leur réflexion et de leur engagement, vont aussi participer à cette amélioration, cette évolution-là de la société marocaine.
Est-ce que vous avez participé un petit peu, Mélène et Alexandre, collaborer même directement avec le personnel de l'orphelinat là-bas. Est-ce que vous avez essayé ? Est-ce que vous avez eu l'opportunité d'agir un peu ?
C'était très rapide parce que l'orphelinat n'était pas au courant. Enfin, l'information n'avait pas été transmise que nous arrivions ce jour-là. Donc c'était un peu... Enfin, je dis pas de bêtises, hein, c'était ça. C'était un peu... On vous fait un tour de visite et vous partez, s'il vous plaît. C'était un peu ça.
Ah oui ?
Oui, totalement.
Donc vous n'avez pas vu... j'imagine, vous avez vu que le mieux ?
Ouais, non, d'un côté non, parce que justement ils n'étaient pas prêts, donc on a vu, on était en plein, on a vu tout ce qu'on devait voir en fait, parce qu'ils n'ont pas pu préparer notre arrivée, comme on est arrivé, on a rencontré une dame qui nous a dit bon bah faut faire trois groupes, les trois groupes passent et hop, chaque étape, voilà, donc non, on n'a pas eu de lien, parce qu'ils étaient très occupés aussi, le personnel, déjà ils n'étaient pas beaucoup. De ce que j'ai cru comprendre aussi, travailler dans un orphelinat, là-bas, il n'y a pas spécialement besoin de formation, ou c'est plus un taf qu'on fait comme ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était très rapide, quoi. On avait notre visite et puis on passe à autre chose.
D'accord. Est-ce qu'il y a un accompagnement, justement, en parlant de toutes ces naissances hors mariage, est-ce qu'il y a un accompagnement, une sensibilisation à tout ce qui est contraception ? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place là-bas ? Comment est-ce que vous avez vu un petit peu toutes ces choses-là ?
Je pense que c'est quelque chose de tabou aussi.
Aussi ?
Oui, bah, si ça se rapporte à... Enfin, tout ce qui est contraception, ça se rapporte à la sexualité. Et la sexualité, c'est un sujet tabou aussi dans cette société-là. Donc non, c'est pas des thèmes qu'on a abordés ni avec les professionnels, ni avec les familles, de ce que j'ai en tête. Après, peut-être que certains ont eu l'occasion d'évoquer ces thèmes-là.
On a, je pense qu'aucun de nous a entendu le terme contraception durant le séjour.
Ouais.
Donc, voilà. Et même personnellement, je me suis même pas posé la question de comment ça se passait pendant le séjour. Donc.
Bon alors, du coup, cette expérience là qui est complètement différente de ce qu'on peut avoir ici en France, comment est-ce que ça a influencé votre vision du travail social? Et est-ce que ça a influencé déjà votre vision, Mélène?
Ben, comme disait Charlotte justement tout à l'heure, c'est vrai que la question de l'engagement était assez importante. Enfin, on voit des bénévoles qui vraiment se donnent corps et âme dans ce qu'ils font. Et c'est vrai que nous, on est en France avec nos horaires bien définis, voilà, même si parfois on déborde un petit peu par conscience, parce qu'on a envie aussi de déborder. Mais ça n'empêche qu'on voit bien que c'est vraiment beaucoup plus profond que ça, et les valeurs sont vraiment bien là, et oui, ça nous a touchés, ça nous a aussi, enfin on a rapporté ça avec nous dans notre valise, enfin en tout cas moi je sais que dans ma pratique, j'essaye d'y mettre un petit peu plus d'engagement. Je pense qu'on est tous avec beaucoup de bonne volonté et avec une envie de bien faire, mais c'est vrai que bah, parfois la question de l'engagement... Quand on se rappelle de ça au quotidien, ça nous donne un peu plus d'élan aussi et d'envie de faire.
Oui, bah après, c'est vrai qu'on a un apport théorique aussi en formation. Par exemple, sur des concepts comme le lien d'attachement ou des choses comme ça. Bon, évidemment, on est confronté à les travailler, les observer sur nos terrains de stage, d'apprentissage. Mais pour le coup, on a été confronté directement à l'impact finalement que ça avait pour ces enfants-là d'avoir une rupture dans le lien d'attachement. On était face à des enfants cabossés avec des carences affectives et autres. Et puis on avait clairement face à nous les résultats que ça avait, quoi, dans l'évolution de ces enfants-là, dans leur développement. Et donc je pense que c'est des notions qui nous restent en tête du coup une fois sur le terrain de professionnel, quoi, et puis qu'on essaye de mettre en avant et de porter une attention particulière à ces notions-là.
Et pour vous, Alexandre ?
Un séjour comme celui-ci nous apporte forcément dans notre pratique quotidienne, déjà avec ce qu'on a vu sur place et toutes les fois, après chaque journée, on discutait beaucoup entre nous de ce qu'on avait vécu, donc on posait tout de suite des mots sur ce qu'on ressentait, sur ce qu'on avait vu, etc. Donc ça nous apporte énormément dans notre pratique aussi quotidienne, le fait de déposer les choses qui peuvent nous donner des émotions ou autres. Je me rends compte que beaucoup de mes proches aussi qui ne sont pas du tout dans le social m'ont beaucoup posé des questions par rapport à ce voyage. Donc le fait de leur transmettre un petit peu ce que j'ai vécu et ce qu'on a vécu montre que ça interroge ce qui peut se passer dans d'autres pays par rapport à notre vision, on va dire européenne du sujet. Donc voilà.
D'accord. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage de se lancer dans l'éducation spécialisée ?
Moi, je dirais d'être soi, parce que je pense qu'il faut vraiment donner un peu de soi pour pouvoir faire ce travail, en fait. Être entier.
Je vais rejoindre Mélène, parce qu'on travaille avec de l'humain, donc forcément, on a des émotions en face de nous, mais nous aussi, on a nos propres émotions. Donc, rester nous-mêmes et garder en vision nos valeurs, on va dire. Et puis voilà, et puis bonne chance aussi, parce que c'est...
Ouais. Est-ce que vous envisagez d'en faire d'autres, d'échanges comme ça avec un autre pays Est-ce que c'est prévu, peut-être, ça se trouve?
Donc on est en dernière année de formation, donc c'est pas prévu dans le cadre de nos études. En revanche, on devrait être diplômé à la fin de l'année scolaire, en juin à peu près.
Oui.
Et donc c'est vrai que personnellement, j'aimerais partir en voyage un peu humanitaire, donc je n'ai pas encore pensé le projet, mais enfin si je l'ai pensé, mais je l'ai pas organisé quoi. Mais effectivement, mais ça ouvre des portes, des envies.
Moi, j'ai un voyage personnel de prévu fin janvier, début février au Maroc justement. J'y retourne à Marrakech cette fois-ci. Bon, c'est plus personnel, mais il y a un côté, il y a une attache au Maroc qui s'est créée aussi. Donc, je sais pas, j'ai un côté, j'ai envie d'y retourner un peu personnellement. Donc voilà.
À cause de ce que vous avez.
Ouais. En fait, ce séjour m'a donné envie de découvrir plein de choses. Donc là, je retourne à Marrakech parce qu'il y a le côté facile. Mais, ouais. Je vais à Marrakech. Mais oui, c'est vrai. En fait, m'a donné envie de rencontrer tout simplement des gens, hors France, on va dire. Donc ça apporte aussi ce genre de choses.
Ok, Mélène.
Bah moi c'est vrai que en fait avant de rentrer en formation et avant même mon autre formation avant, je voulais aller en Inde en fait. Et il y a eu le Covid. Donc voilà, Inde et Népal et un voyage de 7 mois. Et j'ai encore cette petite idée en tête. Donc j'espère avoir les sous pour pouvoir partir. Mais même s'il n'y a pas besoin de forcément grand chose, mais ouais, pour pouvoir rencontrer aussi les gens.
Et donc Blue End, vous êtes formatrice ici. Qu'est-ce qui a changé chez eux après entre l'avant, il y a eu un avant puis il y a eu un après voyage.
De ce que j'ai vu évoluer, c'est la capacité à parler de leurs émotions. Il y a eu un avant, un après, plus une timidité peut-être au début à parler d'eux-mêmes. Et là, j'ai l'impression qu'ils s'autorisent davantage à le faire. Et il y a eu une grosse évolution sur les 3 ans de formation, ça c'est sûr, c'est une formation qui bouleverse énormément. Mais ce voyage-là est venu marquer un tournant, c'est en deuxième année. Et puis ça leur fait participer à des expériences autres, comme par exemple être à la radio aujourd'hui. Ils ont aussi tous animé ensemble une conférence en amphithéâtre. Et je me dis qu'ils ont grandi avec cette expérience. Et je leur souhaite, moi, de découvrir autre chose au Népal, en Inde, au Maroc et puis dans d'autres lieux.
C'était un peu voulu, le Maroc. C'était un peu voulu d'essayer de les choquer, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais leur apporter une autre réalité du travail social.
Bah, y avait une volonté de les décentrer de leur représentation, ça c'est sûr. De les choquer, non, parce que l'idée c'est pas de venir... De venir les heurter dans leur sensibilité, et puis on en a tous des sensibilités différentes aussi par rapport à nos parcours. Mais c'était une volonté aussi d'aller à la rencontre de l'altérité, de prendre conscience de sa propre altérité aussi, à nous, quand on va rencontrer l'autre dans un pays étranger, mais on parle de pays étranger, mais l'autre est partout autour de nous. Donc c'est de pouvoir se décentrer de ses représentations, même ici en France, je pense que c'est hyper important. De ne pas être dans le jugement, dans la société dans laquelle on est et avec tout ce qu'on entend. De faire attention, justement, à ne pas imposer ses croyances aux autres.
Mais c'est ça, s'affranchir un petit peu de toute notre culture, de tout ce qu'on a pu apprendre par nos parents et tout ça, qu'il existe aussi d'autres cultures et qu'il faut faire parfois avec. Ce n'est pas toujours évident.
Non, tout à fait. Et ouais. Je trouve qu'ils ont bien réussi à métisser aussi leur pratique de travailleur social avec ce qu'ils ont rencontré là-bas.
Finalement, c'était quoi les plus gros défis qu'ils ont pu rencontrer là-bas?
Déjà d'aller vers l'autre, ça c'est un gros défi, d'aller à la rencontre des enfants, mais les enfants sont très forts pour venir nous chercher par le biais du jeu, par le biais du dessin, par le biais de la danse, de la chanson. Et puis il a fallu aussi déconstruire ces représentations. Sur les orphelinats, sur les personnes en situation de rue. Et je pense que ça a été ça le plus gros défi, d'apprendre à aller à la rencontre de l'autre en mettant de côté ses représentations.
D'accord. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. C'était super chouette. À bientôt.
Merci.
À bientôt.
Et voilà, vous pouvez même applaudir si vous voulez.